Fred Film Radio, Cinéma du Réel, Paris, France.
Morgan Stampfer pour Fred Film Radio, en direct de la 36e édition du Festival Cinéma du Réel qui se tient à Paris du 20 au 30 mars. Je suis en compagnie du réalisateur Jérémy Reichenbach qui nous présente son documentaire de 77 minutes « Sanglais demi sanglais » dans la catégorie des films français. Bonjour Jérémy.
Bonjour.
Est-ce que vous pourriez me parler un petit peu de votre film ?
C'est un film que j'ai fait sur une assez longue période, quasiment 3 ans, où j'ai accompagné une famille en Argentine dont plusieurs hommes travaillent dans un abattoir qui a la particularité d'être un lieu autogéré.
Du coup, vous avez choisi une structure binaire, c'est-à-dire que à la fois on suit les deux hommes à l'abattoir et à la fois on les suit dans le quotidien familial. Est-ce que vous pourriez m'expliquer le choix de cette structure ?
Je pense que c'est une structure plutôt circulaire, avec justement plusieurs cercles, et c'est ça qui m'a intéressé, c'était plutôt la question de la pluralité de l'individu, comment est-ce qu'on peut être multiple, et que justement on peut appartenir à plusieurs communautés, plusieurs cercles, plusieurs ensembles, et donc ces hommes effectivement font partie de la même famille, en même temps ils font partie d'un ensemble de travailleurs, il y en a un qui est croyant, donc il fait partie d'une communauté de croyants, il y en a un qui vit en couple, donc chacun justement, il donc recrée un espèce de nouveau noyau familial. Donc c'était toutes ces questions qui m'intéressaient, et c'était, voilà, on appelle ça un peu banalement le vivre ensemble, mais c'est effectivement comment est-ce qu'on vit ensemble, et c'était ces questions-là qui ont un peu animé le film.
Et dans votre film aussi, il y a une place que je trouve très importante à la musique, c'est-à-dire que votre documentaire s'ouvre avec des notes de piano, et tout au long du documentaire, il y a des petits instants avec de la guitare ou un homme qui est en train de trifouiller un poste de radio. Pourquoi vous avez accordé autant d'importance à la musique dans votre documentaire ?
Alors il y a deux choses en fait. Il y a une musique qui est ce qu'on appelle l'extra-diégétique, que nous on a rajouté au montage, et qui avait, on a fait ça dans une volonté d'essayer d'amener justement le récit vers quelque chose presque, pas de la fiction, mais en tout cas du cinéma. C'est-à-dire que de pouvoir rehausser en termes d'émotion certains moments qui nous ont paru importants dans le film. Donc ça c'était notre part. Et la manière de nous, on a utilisé la musique, je dis nous parce que j'ai fait le film en montage avec quelqu'un, et puis le film, ça a été quand même un film aussi collectif, même si c'est un film sur une expérience collective, mais qui s'est fait aussi de manière collective. Et après la musique dans le film, et la musique qu'ils écoutent, la musique sur laquelle ils dansent, la musique qu'ils jouent, la musique qu'ils chantent, c'est parce que la musique occupe une très grande place dans leur vie. Donc ça, c'est pas vraiment un choix de ma part, enfin c'était un choix de l'intégrer parce que ça faisait partie de leur vie. Et c'est ça que j'ai trouvé beau.
Et comment vous avez rencontré cette famille ?
Alors au départ, en fait, si je remonte vraiment à l'origine du projet, j'étais d'abord intéressé par la question de l'abattoir autogéré. Je voulais voir comment justement ça se passait. Et j'avais déjà travaillé sur un sujet assez proche autour d'une autre coopérative en Argentine. Et donc quand j'ai entendu parler de l'abattoir, ça m'a interpellé parce que justement, j'aimais bien en fait l'antagonisme justement entre cette idée d'un processus un peu révolutionnaire, un processus qui fait rêver, une utopie et à travers aussi justement des hommes qui ont un métier qui je vais dire, je vais mettre des guillemets, qui dérange. C'est-à-dire que c'est des choses qu'on n'a pas très envie de voir, la manière dont on tue les animaux, et on met plutôt ça de l'autre côté. J'aimais bien justement ces deux aspects. Donc ça c'était le point de départ, et quand je suis arrivé dans l'abattoir, il y a eu la rencontre avec Tato, qui est donc devenu un peu le personnage principal de ce film, et en fait c'est lui qui m'a invité dans sa famille, et quand j'ai découvert en fait la vie de la famille, j'étais complètement enchanté en fait par ce qui s'y passait, et j'ai senti qu'il y avait une dialectique possible entre justement cette question de communauté, de collectif au sein de cette grande famille, et dans laquelle c'est très important, il y a vraiment ce côté très uni, très soudé, autour de plein d'événements, de moments, de fêtes qu'on partage ensemble. Et puis la question de l'abattoir, où là on se retrouve, mais pour discuter, pour confronter des idées, pour essayer d'arriver à avancer ensemble. Et voilà, et c'est là que ça s'est situé. Mais j'ai mis un certain temps, en fait, comme j'ai tourné sur plusieurs années, j'ai mis un certain temps vraiment à moi-même être complètement sûr que c'était comme ça que je voulais axer le film.
Et comment on gère finalement le rapport à l'intimité de l'autre ? Parce qu'il y a des images à la fin du documentaire notamment où il y a le couple. Et comment en fait on réussit à rentrer dans une famille ? Puisque c'est une famille, c'est une communauté. Est-ce que c'est pas difficile d'arriver à disparaître et justement laisser la communauté vivre sans jouer le jeu ?
Alors justement, je pense qu'il y a je pense pas justement disparaître, et au contraire, je pense que dans cette scène-là, ce que j'ai voulu montrer, c'est qu'ils étaient très conscients de la présence de la caméra. D'ailleurs, je suis avec eux, je suis vraiment à un mètre d'eux, et que c'était plutôt un jeu entre nous, et qui s'est mis, qui s'est justement une espèce de mise en scène qu'on faisait ensemble. Ils savaient. En plus, je parlais de ce que je voulais. Il y a des scènes que j'ai filmées sans vraiment les avoir pensées, mais il y a des choses dont on avait parlé. Je savais que je voulais une scène justement où je pensais que ça allait être un moment justement de calme, de moment où ils allaient s'endormir avec l'enfant. On en avait parlé, et c'était quelque chose donc dont ils étaient conscients. Et cette petite phrase qu'il lui adresse en lui disant ah tu fais tout ça pour la caméra, c'est quelque chose que j'ai trouvé intéressant, justement de montrer que c'est pas des images volées, ils sont très conscients et voilà, ils ont participé aussi à ça. Et d'ailleurs aujourd'hui quand ils parlent du film, ils disent notre film, et ça moi ça me touche énormément parce que c'est un film qu'on a fait vraiment, qu'on a construit ensemble.
Et comment ils ont réagi justement à la première projection de ce film, parce que c'est dur de se voir à l'écran.
Alors la première projection de ce film aura lieu le mois prochain en Argentine. Ils l'ont pas encore vu, ils n'ont vu que quelques images, et je tenais évidemment à partager ce moment avec eux. Et donc je vous dirai ça dans un mois, mais bon, j'espère qu'ils s'y retrouveront et qu'ils seront heureux. Et je pense que, enfin je veux dire, vu ce qu'on a vécu et puis la suite, en plus j'envisage de faire venir Tato pour présenter le film avec moi ensuite en France. Donc c'était vraiment un échange, c'est au-delà du film, il y a une rencontre, il y a une histoire d'amitié, et c'est des gens qui comptent pour moi et qui, je pense, qu'ils compteront maintenant toute ma vie.
Et j'aimerais revenir avec la notion de sang, et qui est justement évoquée dans votre titre. Et tout au long du documentaire, on voit un petit garçon, on grandit avec le petit garçon, et il y a des scènes qui sont très très marquantes et qui finalement, on se rend compte qu'on n'échappe pas à son sang. C'est-à-dire que un homme demande à ce petit garçon, mais qu'est-ce que tu veux faire après ? Je veux être boucher. Et est-ce que par rapport au regard d'autres images, notamment de scènes familiales où le père dit « mais moi je veux pas de ça pour mes enfants », est-ce que vous pourriez me parler justement de votre vision un peu pessimiste de « on retourne toujours à son sang » ?
Je pense pas du tout avoir une vision pessimiste. Je pense que moi je vois quelque chose de très beau là-dedans, justement dans la question de la transmission. C'est un métier dont ils sont fiers. Et voilà, et ce petit garçon, il a envie de faire comme ses modèles masculins, comme ses oncles qui travaillent à l'abattoir. Donc pour lui, mais ça veut pas dire qu'il y travaillera forcément. C'est qu'aujourd'hui, c'est ça dont il a envie. Et quand Willy l'emmène avec lui pour le week-end, filer un coup de main et faire un peu de nettoyage, il est fier, il est heureux comme tout. Et moi qui ai des enfants, quand je les emmène voir ce que je fais, que je leur montre ce que c'est qu'un film et tout ça, je ressens la même chose. Donc pour moi, c'est vraiment de la transmission. C'est ça, cette notion de sang qui m'intéressait aussi. Il y a plein, en fait, le sang, il est sur plein de degrés. J'imagine que vous en êtes rendu compte. Je vais pas tous les citer là, mais ça en faisait partie. Et je vois pas ça du tout d'un point de vue pessimiste. Au contraire, je vois ça comme quelque chose de très beau.
Et quel futur pour ce documentaire ?
On espère qu'il va pouvoir sortir en salle d'ici quelques mois en France. Et puis après, il y a toute une année où on va l'envoyer dans différents festivals. Et en fonction, je sais que le Réel, c'est un festival qui est très important en termes de renommée au niveau des autres festivals, et que l'an dernier j'avais un film qui, une fois qu'il est passé, on m'a énormément demandé, parce que ça fait une vraie vitrine pour le film et c'est un vrai plus. Et d'ailleurs j'en profite pour remercier Maria Bonsanti qui m'a tout de suite appelé pour me dire que l'équipe aimait le film, et voilà, je tenais à la remercier.
Parce que c'est vrai que, rappelons-le, vous aviez présenté l'année dernière un court-métrage, justement, c'était « Quand passe le train ». Et quelle a été la vie post-festival de ce court-métrage ? Vous l'avez présenté dans d'autres occasions, ou est-ce que vous avez réussi à le distribuer ou...
Oui, il a beaucoup tourné, il continue à tourner. Il a été dans des festivals internationaux, j'ai pu l'accompagner, notamment à Madrid, à Florence... à Clermont, à Trace de Vie, où il a gagné le prix Hors Frontières. Enfin, oui, il a une belle vie. Et là, il y a régulièrement des projections de ce film. Après, on va sans doute faire une édition DVD. On ne sait pas encore, mais en tout cas, il a une belle vie pour un court métrage en plus. Donc là, c'est mon premier long métrage, et j'espère que ça sera encore plus.
Et dernière petite question, est-ce que vous êtes sur d'autres projets ou cinématographiques en termes de soit court métrage, soit long métrage?
Là, je sors en fait de plusieurs années d'un travail intense qui a été ce film-là et deux autres courts que j'ai tournés pendant la même période. Et donc là, je voudrais un petit peu réfléchir, prendre le temps pour penser. J'ai évidemment plein d'idées, plein d'envies, mais pour l'instant, ça n'est qu'à ce stade-là.
Vous souhaitez retourner en Argentine ou plutôt tourner dans d'autres pays ?
Non, je vais retourner en Argentine déjà parce que j'y vais pour leur montrer le film. Et après, non, ça sera en fonction. Je me laisse assez. Je me laisse un peu porter par les rencontres et par les envies. Et puis j'ai aussi envie d'expérimenter de nouvelles choses. J'ai pas envie comme personne, mais j'ai pas envie de refaire la même chose. Donc on verra, non, je sais pas encore. Vraiment là.
Eh bien, merci beaucoup, Jérémy. Donc vous présentez Cinglé Demi Cinglé dans la compétition française dans le cadre de 36e édition du Festival Cinéma du Réel. C'était Morgan Stampfer pour Fred Film Radio.
Fred Film Radio, 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.